Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête sur la première, vous connaissez Ride.
Ride ? Ouais, quand on vieillit, ouais.
Bonzo !
Pourquoi Bonzo ?
Ah, c'est du patois valaisan, Philippe.
Ah oui, c'est vrai, non, du patois valdotin.
Oui, mais on dit la même chose en valais. Bonzo !
On dit Bonzo, alors Bonzo Duja, Bonzo à tous. On se retrouve aujourd'hui chez Didier
Crétenant, Philippe.
Didier Crétenant, qui va nous parler d'une méthode révolutionnaire pour protéger les petits poumons et la santé des gens à travers le monde.
C'est marrant parce qu'avant, tu te souvenais du nom de famille, mais plus du prénom. Je t'ai dit le nom Crétenant, après Didier.
Crétenant.
Voilà.
Crétenant, c'est quoi son prénom ?
Didier.
Non, mais je rigole. Allez.
Nous sommes chez Red Elec, une start-up, à savoir une entreprise innovante.
Oui, et qui démarre. Souvent, les start-up sont ces petites entreprises qui démarrent.
Non, avec... on dit en français entreprise innovante.
Voilà, qui démarre avec deux bouts de ficelle.
Red Elec Technologies.
Dans un laboratoire.
C'est un laboratoire.
Ah, d'accord. Bonjour, Didier Crétenant.
Bonjour.
Salut.
Ça va ?
Très bien, oui.
C'est David Crétenant, Philippe.
Mais pourquoi tu m'as dit Didier ?
Didier, c'est un footballeur.
Ah, c'est un footballeur ?
Il ne connaît rien au foot, lui. Ah, c'est énorme.
Bon, alors, salut David, content d'être là. Donc, c'est vraiment impressionnant, il y a un matériel d'enfer, là.
Oui, effectivement, ouais, c'est la chimie. Alors, ça ressemble à de la chimie, il y a des tuyaux, de la tuyauterie partout, des installations électriques, etc.
David, on se retrouve ici dans ce qu'on appelle une start-up, ou alors une entreprise innovante. Raconte-nous comment est-ce que tu as créé cette entreprise.
Alors, c'est déjà une histoire assez longue, parce que j'ai fait un doctorat, en fait, sur le travail qui m'occupe encore maintenant pour l'industrie du denim, pour la réduction de l'indigo, ça s'appelle comme ça. J'ai fait mon doctorat là-dessus. Il y a eu un travail intéressant qui a été fait. On a vu qu'au niveau du laboratoire, on avait des résultats qui présentent un joli potentiel. Donc après, je me suis lancé avec une équipe d'amis. On a fait l'investissement pour créer l'entreprise.
Vous avez trouvé comment les fonds ?
Alors justement, avec des amis, j'ai la
mais
chance...
Mais quels amis ?
Ah, quels
on
amis ?
Sait qu'en Valais, il faut avoir certains amis, mais qui peuvent tomber un jour.
Non, alors c'est vraiment des amis proches, hein, pas dans la... c'est pas des amis politiques ou autres.
C'est pas des vignerons.
Des vignerons, bah il y en a certainement. Maintenant, on est une cinquantaine, donc pour présenter ce que c'est le nombre de personnes qui s'est investi là-dedans. Mais c'est des gens de la commune. Peut-être vous en avez croisé quelques-uns vous baladant.
Ouais, les tout bleus là.
Oui, certainement.
Et dis-nous, ton parcours a commencé par l'école polytechnique fédérale, mais avant, tu as fait tes classes en Valais. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller étudier à Zurich en allemand ?
En fait, moi, j'ai fait un apprentissage et puis ensuite, j'ai fait l'école d'ingénieur à Sion.
Alors, donc, j'avais apprentissage de quoi ?
De laborant en chimie. Donc, j'ai fait un assez long parcours dans la chimie qui était entièrement en français. Puis après, pour aller à l'EPFL, il fallait recommencer en première année, tandis que les Zurichois étaient plus compatissants avec les gens qui sortaient de l'école d'ingénieur, puis ils nous permettaient de rentrer à la fin de deuxième année, en fait. Puis c'est comme ça que j'ai atterri à Zurich, sans grande qualité pour les langues, mais
donc déjà, ça a passé quand même. L'allemand, c'est pas facile. La chimie, c'est difficile. Alors, la chimie en allemand, il faut être un peu maso quand même.
Il faut être maso, oui, certainement.
Bon, ben allez, on est facilement maso de toute façon. AZOT, Philippe.
Oh !
C'était un gag.
Oui, oui.
Non, parce que si je les expliquais alors qu'ils sont déjà mauvais à la base, là je m'enfonce, tu comprends ? La chimie, comment est-ce que ça t'est venu depuis tout petit ? T'as reçu une boîte du petit chimiste ?
Non, absolument pas. Non, c'est pas du tout comme ça. Bon, j'avais toujours l'idée d'inventer des choses et puis de... Je me suis dit, il faut une formation scientifique. J'ai voulu faire un apprentissage. J'ai fait quelques examens d'entrée pour faire électronicien. J'avais pensé à mécanicien. Puis par hasard, on m'a conseillé d'aller faire l'examen d'entrée de la chimie à la Sibagegi. Puis c'est parti comme ça, en fait, sans conviction profonde pour la chimie.
Et un doctorat, ça se travaille, ça se gagne à la sueur du front et des neurones ?
Franchement, le doctorat, c'est peut-être la période la plus simple dans les études, dans le sens que on a un projet à développer sur 3 ou 4 ans et puis qu'on gère nous-mêmes. Donc, ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est sûrement les examens universitaires.
C'était quoi le plus dur ? Allez, vas-y, remémore-toi des moments de souffrance.
Si je regarde dans ma formation, hein, pas dans la vie de l'entreprise, mais dans ma formation, oui, c'est les examens de finaux de l'école polytechnique, où on est pressé là comme des citrons. Où chaque
il y a quoi comme branche? Raconte-nous, tu as dû bosser sur quoi?
C'est chimie physique, c'est les branches les plus techniques avec beaucoup de mathématiques. Alors c'est ça qui fait beaucoup suer, même les chimistes, quand on pense qu'ils ont l'habitude de devoir jongler avec des formules, mais là aussi c'était pas simple.
Mais rassure-nous, Zurich, la nuit, les étudiants, ça vit quand même.
Ça vit beaucoup, surtout les Romands. Moi, j'avais deux colocataires qui n'étaient pas du tout au poly. Alors, eux, ils disent que c'est moi qui les entraînais, mais c'était des fois le contraire. Et puis, oui, on a une vraie belle vie d'étudiant à Zurich. Oui.
Quand on est étudiant en chimie, est-ce qu'on essaye de fabriquer des petites substances pour le samedi soir?
Alors, moi, j'étais pas dans ce trip-là, mais ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes collègues qui étaient motivés par essayer de faire exploser quelque chose, essayer de créer des substances ou des choses comme ça. C'est peut-être un moyen d'arriver à l'envie de faire de la chimie. Hein, ouais.
Plus sérieusement maintenant, pendant que Philippe prend des photos.
J'écoute.
Non, mais il veut enchaîner, mais tu vois, il est un petit peu absent.
Non, pas du tout. Non, moi, je sentais une odeur et je me demandais ce que c'était comme odeur. Ça sentait un peu le gaz.
C'est exactement ça. En fait, c'est pas le gaz là, mais c'était le produit chimique qu'on utilise normalement pour.
C'est un truc super nocif, Philippe, tu verras.
Réduire l'indigo. En fait, j'avais préparé un produit pour vous montrer si jamais tout à l'heure. Et puis, il a cette odeur de. Enfin, on dit le gaz, mais c'est l'odeur des œufs pourris en fait, mais léger. Souffre. Voilà, les odeurs soufrées, exactement. D'accord. Puis on a fait cette préparation là tout à l'heure, et puis ça sent un tout petit peu.
Bonjour monsieur, c'est l'émission Billes en tête sur la première. Vous portez des jeans, ces jeans sont bleus. À votre avis, pourquoi ces jeans sont-ils bleus?
Je sais pas, à mon avis ça devait être un cow-boy américain à l'époque. Mais le bleu, pourquoi, je sais pas.
Vous avez d'autres couleurs de jeans?
Oui, il y a le noir aussi. Peut-être, je sais pas, est-ce que c'était peut-être moins salissant, le bleu et le noir, je sais pas.
Et des jeans valaisans, vous avez déjà porté?
Non. C'est quoi la particularité?
Ils sont au fromage.
Ah d'accord, non. Donc ils sont jaunes.
Ouais.
D'accord. Merci.
Alors, l'indigo, c'est quoi?
L'indigo, c'est un colorant, d'abord, et puis c'est un colorant naturel à l'époque. Donc, c'est un des premiers colorants qui a été développé. À l'époque, dans les premiers colorants, on avait du rouge ou du jaune. Et puis, d'avoir du bleu dans la nature, c'était assez exceptionnel. Puis, c'est pour ça qu'on a exploité très longtemps l'indigo. Pour la royauté, par exemple, on dit l'indigo, c'est le colorant roi, parce que les rois de France, etc., ils utilisaient ce type de colorant, qui était à l'époque le naturel. Aujourd'hui, c'est du synthétique. Puis c'est l'indigo qui est utilisé pour la coloration de tous les jeans qu'on peut voir.
D'accord, et c'est un colorant qui coûte cher, ça, j'imagine.
Qui coûte aujourd'hui très peu cher, justement, parce que avec l'évolution, on a trouvé des moyens de le produire de manière très économique, puis avec des quantités tellement énormes que ça devient produit de commodities, comme on appelle.
Du reste, David disait que le bleu était un colorant qui était très rare à l'état naturel, en tout cas dans la nature. C'est pour ça que tous nos auditeurs ne soyez pas surpris quand vous voyez des cuisiniers avec des gants de cuisine bleus, parce qu'on utilise cette couleur bleue pour pouvoir déceler les petits morceaux de gants qu'on peut couper sans s'en rendre compte dans la nourriture.
Parce que toi, Philippe, tu as essayé la cuisine colorée et je crois que le bleu n'a pas rencontré un franc succès.
Ah non, mais je m'étais planté lamentablement parce que j'avais essayé une fois de faire du... Bon, à l'époque, je prenais...
Ragout-Strumpf.
Je passais beaucoup de temps dans les cuisines et par hasard, j'ai fait une purée de choux rouges dans laquelle j'ai rajouté du sel et du blanc d'œuf. Alors, ça fait quelque chose d'assez noir, mais dès qu'on le cuit, ça devient un bleu, mais magnifique, quoi, un bleu azur. Très très jolie. Alors j'étais très très fier, forcément, parce que j'avais trouvé une couleur naturelle comme ça et j'avais fait une terrine de légumes avec 7 couleurs différentes et très fier de ma terrine avec 7 couleurs. Je l'avais servie au buffet et tout le monde regardait ça et personne n'en a mangé parce que forcément le bleu au niveau gastronomique est une couleur qui n'est pas appétissante.
Comment est-ce que tu es parti, David Crétenant, dans l'idée de créer des jeans forcément bleus? L'indigo, c'était plutôt le côté haute couture qui t'intéressait, les jeans ou alors le bleu? Comment est-ce qu'on arrive comme ça par association d'idées à développer un produit?
Alors là, c'est de nouveau un peu le fruit du hasard. Donc j'étais à l'école polytechnique de Zurich. Il fallait choisir un travail de diplôme. C'est un travail de 3 mois à la fin des études. Et puis il se trouve que par hasard, il y avait quelqu'un qui travaillait sur cette problématique, essayait de transformer l'indigo pour l'apprêter pour la teinture de manière non chimique. Et puis je suis parti sur un travail d'électrochimie. c'est-à-dire étudier la possibilité d'utiliser l'électricité pour faire cette transformation. C'est quelque chose qui me paraissait assez génial. Utiliser l'électricité à la place des produits chimiques, c'est parfait. On a moins de polluants et puis c'est ce qu'il y a de plus.
Ça se passe comment? Comment le processus s'effectue comment?
Alors, on a simplement une machine dans laquelle on vient amener du courant électrique. Et puis, on a ce qu'on appelle une électrode qui fait l'interface avec le produit à transformer. Puis, c'est sur cette électrode qu'on va transformer l'adigo qui est insoluble normalement en un produit qui est soluble et puis qui est prêt à être utilisé pour faire la teinture.
Parce que la charge électrique transforme la structure moléculaire de l'indigo?
Voilà, si on veut, on va lui donner des électrons et puis les molécules, elles vont se repousser les unes les autres et puis devenir solubles au lieu de rester en agglomérat.
Alors, à t'entendre, ça a l'air assez évident. Pourtant, personne n'y avait pensé avant toi.
Beaucoup de monde avait pensé avant moi. Donc, il y avait un brevet déjà en 1908. Ça, c'est marrant parce que c'est aussi le numéro postal de Reed. Mais en 1908, il y avait déjà un brevet où on décrivait la possibilité de réduire électrochimiquement l'indigo. Mais c'était vraiment peu efficace. Puis malgré durant une trentaine d'années, des gens qui ont travaillé là-dessus, des années 70 au milieu des années 90, sans avoir un succès, sans arriver à faire la transformation de manière efficace. Parce que si on va mettre de l'électricité dans de l'eau, donc l'adigo est dans l'eau, on peut fabriquer de l'hydrogène au lieu de faire la transformation voulue de l'adigo. Et puis c'était ça, il fallait créer la machine capable de faire cette transformation, ce que j'ai réussi à développer durant mon doctorat. Ensuite, j'ai mis un brevet là-dessus et puis j'ai pu lancer l'entreprise.
Si j'ai bien lu mes notes, le processus s'appelle l'électrolyse.
Un système d'électrolyse, oui. Dans l'électrolyse, normalement, on parle d'électrolyse pour l'électrolyse de l'eau, parce qu'on va casser l'eau pour faire de l'hydrogène. Puis là, on parle plutôt de transformation électrochimique, en fait.
Philippe, t'as tout compris, toi qui es bricoleur?
J'ai rien compris parce qu'en fait, c'est très compliqué. J'ai essayé de trouver des relations avec la cuisine et c'est pas évident. Disons que je pense que David a l'explication, la compréhension des transformations chimiques que nous, en cuisine, on a plutôt la compréhension du résultat, mais peut-être l'évolution, la transformation, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait pour nous.
Bonjour monsieur, c'est l'émission Bille en tête monsieur. Pourriez-vous me dire pourquoi est-ce que les jeans sont bleus monsieur?
Oh ça, je ne sais pas donc.
Parce que là vous portez des jeans?
Mais oui mais...
Ils sont bleus?
Mais oui mais c'est la couleur des fabricateurs.
Hein. Bille en tête.
Bonjour madame, l'émission Bille en tête sur la première. Dans quel coin du Valais aimez-vous vous rendre?
Saint-Luc.
Saint-Luc, pourquoi?
Parce qu'il y a l'hôtel Bellatola.
Et?
Il est magnifique, c'est un hôtel historique extraordinaire, on est bien accueillis, c'est sympa, c'est magnifique.
Est-ce qu'il y a des fondues au petit déjeuner?
Non, malheureusement.
Ah non? Bon, on ira ailleurs, alors merci. Bille en tête avec aujourd'hui David Crétenant, chimiste à Reed. Alors les applications de cette découverte de ce brevet, elles sont uniquement dans le côté vestimentaire pour la fabrication de jeans, alors on pourrait imaginer d'autres applications, même dans la gastronomie?
Alors dans la gastronomie... On en parle, par exemple, pour purifier l'eau, pour si on a des bactéries, etc. Donc, nous, on fait de la purification d'eau aussi pour éliminer les métaux, mais pour éliminer les bactéries aussi, ou pour éliminer les polluants, comme les polluants organiques. On entend parler des micropolluants. Alors, typiquement, c'est une des applications qu'on a. Et puis, une autre application qu'on aimerait développer, c'est pour le stockage électrique. Donc l'électrochimie, les batteries, c'est aussi de l'électrochimie. Et puis là, il y a un potentiel qui devient de plus en plus important.
Ce brevet, il a été déposé. Comment est-ce qu'on dépose un brevet? Il faut aller voir un office particulier. Est-ce qu'on doit prouver qu'on est le premier à avoir trouvé ça? Comment ça se passe?
Oui, c'est exactement ça. Alors, un brevet, ça peut être très simple à déposer, mais dès qu'on rentre dans la technique, ça devient un peu plus compliqué. Donc, il faut là travailler avec des bureaux de brevets qui connaissent bien ça. Donc, nous, on s'est approché avec l'École Polytechnique d'un bureau de brevets qui a fait les recherches pour savoir s'il y avait ce qu'on appelle des antériorités, des choses similaires qui avaient été faites et qui pourraient bloquer la possibilité de faire notre brevet. Pour que ce soit brevet, forcément, il faut que ce soit innovant. Là, justement, c'était le cas et puis on a pu déposer le brevet. Dans une première étape, on fait un dépôt de brevet sur le monde entier, en fait. Et puis après, dans chaque pays, il va avoir une analyse du brevet. Est-ce qu'il est OK ou pas par rapport à l'état de l'art dans le pays visé?
Est-ce qu'il y a un intitulé précis?
C'est un nouveau réacteur électrochimique pour la réduction des colorants de cuve, quelque chose comme ça. Mais
alors là, quand tu dois expliquer ça de manière extrêmement simple, quand tu dois vraiment être didactique, tu dis quoi ? Tu fais quoi comme boulot alors ?
Ce qu'on a fait spécial dans cette électrode, d'habitude les électrodes sont des surfaces planes, puis là nous on a une électrode tridimensionnelle qui permet justement de faire une transformation d'un solide, ce qui est inconnu dans l'électrochimie. On appelle ça la réduction de l'adigo, c'est-à-dire rendre soluble l'adigo pour qu'il puisse ensuite être utilisé pour la teinture du jeans.
Ouais, parce qu'il y a des gros problèmes au niveau des jeans, on voit des documentaires concernant des gens en Turquie ou Bangladesh ou ailleurs qui utilisent soit des solvants ou alors qui utilisent des techniques pour délaver les jeans qui prétéritent leur santé. Qu'en est-il de tout cela ?
Oui, alors il y a différentes problématiques dans la production du jeans. Si on ne parle pas des problématiques sociales, uniquement écologiques, il y a une partie, c'est la teinture. Donc justement, on utilise des produits chimiques pour apprêter l'adigo qui après, ces produits chimiques vont... Une fois consommés, vont produire énormément de sels qui vont se retrouver dans les effluents. On a aussi souvent vu en Chine les sorties d'usines de ces fabricants de denim qui ont une grande quantité de colorants qui va finir dans les fleuves.
Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de payer nos habits moins chers chez de grands distributeurs suédois, par exemple.
Effectivement, c'est ça un peu tout l'illogisme de cette industrie quelque part, parce que la clientèle dit qu'elle veut quelque chose de plus écologique, de moins polluant, et est un peu choquée quand on voit les modes de production. Mais en même temps, au moment où on va faire l'achat, personne ne se préoccupe vraiment de ce qui se passe avec le vêtement, comment il a été produit.
Là, il y a un comparatif avec l'alimentation.
Non, pas vraiment. Moi, je me posais la question par rapport à tous ces problèmes éthiques, pollution, etc., qui travaille un peu dans l'humanitaire, je me rends compte que ce sont des jolies paroles, mais qui n'ont que peu de mise en application, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, est-ce que ton système coûte moins cher que ces colorants ? Parce que c'est ça qui fait que ça prendra le dessus sur cette pollution.
Alors, il est moins cher, le système. Le problème, c'est qu'il faut faire un investissement au début. Donc c'est plus facile d'avoir une charge et puis d'utiliser le produit chimique parce qu'on paye tant par mois, tandis que pour utiliser notre système, il faut payer la machine au début. Donc il y a un retour d'investissement de 3 ans, donc on se dit c'est formidable, tout le monde va adopter la technologie, mais tout le monde se rejette un petit peu la responsabilité. Ils nous disent, vous faites-vous l'investissement pour les premières machines, vous montrez que ça fonctionne, puis le jour où vous avez montré que ça fonctionne, vous avez investi 1 ou 2 millions pour faire cette première étape, après nous on est prêts à suivre. Mais personne prend l'initiative pour développer de nouvelles technologies. Et c'est difficile pour une petite start-up de dire, oui, c'est nous qu'on va chercher 2 millions et puis on va mettre ça sur la table.
Mais c'est complètement illogique parce que d'après ce que tu dis, c'est prouvé noir sur blanc. Il y a un brevet qui est déposé. On sait, c'est logique de comprendre que ça coûte moins cher, tu dis, après 3 ans. Et il n'y a personne qui suit. Alors quand on sait qu'il y a des millions qui sont investis dans des trucs plus ou moins hallucinants...
Peut-être que l'industrie pétrochimique a aussi des œufs à garder, non ?
Certainement. C'est ce que je n'osais pas dire.
Voilà. Il y a 3-4 ans, j'avais l'impression que c'était ça qui pouvait bloquer l'évolution de cette technologie. Alors on a fait l'effort d'aller jusqu'au niveau industriel, on a produit du colorant, donc 25 tonnes de colorant, ça représente 500 000 jeans, donc il y a 500 000 jeans qui ont été fabriqués avec notre système, on ne sait pas, et c'est quelque part dans le monde, plutôt ça a été produit au Brésil.
Parce que, je te coupe, le résultat est exactement le même.
Le résultat est exactement le même.
Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, je vois que vous portez des jeans. Moi aussi, ces jeans sont bleus, à votre avis, pourquoi ?
Aucune idée.
Pourquoi les jeans sont-ils bleus ?
Ils devraient être blancs, en fait.
Pourquoi, monsieur ?
Parce qu'on dit que les jeans, le premier qui les a inventés, il a eu l'idée de... Il a utilisé du tissu épais et de tente, il a cousu des pantalons pour les chercheurs dehors, ou quelque chose comme ça.
Bille en tête.
Toi, David Cretton, tu portes des jeans éco.
Là, dans ce cas-là, non. Enfin, éco dans le sens que ça fait bientôt 10 ans que je les porte.
Ah, d'accord. Donc, tu portes toujours des jeans travaillés au colorant.
Oui, mais le colorant, il ne change pas. C'est simplement l'application qui évite d'utiliser des produits chimiques. Mais le colorant, l'adigo, on ne va pas l'éliminer. C'est toujours
ce que je veux dire, c'est que c'est des procédés chimiques que tu portes en ce moment.
Oui, oui, oui.
Donc, tu te fous un peu de la gueule du monde, là. Non, mais c'est facile de les trouver. C'est facile de les trouver justement sur le marché, ces jeans.
Non, c'est ça. C'est que
mais
c'est...
ça existe.
Justement, c'est extrêmement difficile parce que un jeans, voilà, on va acheter du, la marque va acheter du tissu, disons au Brésil. Va le faire rassembler peut-être en Tunisie parce que c'est moins cher.
C'est marqué « Made in Tunisia ».
Non, il n'y aura pas de « Made », rien du tout. C'est extrêmement difficile à suivre.
Donc on ne sait pas d'où viennent nos habits, on ne sait pas avec quoi ils sont vraiment fabriqués.
Alors, il y a certaines personnes qui se lancent là-dedans, qui disent « Nous, on va avoir une traçabilité hein, ». Quand on pense à Switcher, par exemple, c'est typiquement leur business de montrer ça. Mais ça reste des niches. Et puis dans le jeans, il n'y a jamais personne qui a lancé ça et puis qui est prêt à mettre des investissements importants.
Mais on t'a jamais approché ?
On m'a approché, mais alors là, c'était des toutes petites entreprises qui voulaient se profiler par rapport à ça.
Mais toi, tu as allé contacter aussi des plus grosses boîtes ?
J'ai été voir donc toutes les grosses, les plus grosses boîtes de producteurs de tissus. Je les connais, je les ai rencontrés, ils sont venus ici, ils ont visité les installations.
C'est des gens qui viennent de partout dans le monde ?
Donc il y a eu des Italiens, des Espagnols, des Turcs, des Brésiliens. C'est surtout le Brésil qui a acheté déjà beaucoup de notre colorant qu'on a fabriqué pour faire des tests, mais ils n'ont pas fait le pas pour aller plus loin parce qu'il n'y a pas de pression des marques. Puis quand je parle aux marques, en fait les marques savent même pas comment on produit un tissu. Donc, ils achètent du tissu, donc c'est pas leur business.
Ça a l'air bien troublé quand même et troublant.
C'est pas très verticalisé, comme on dit, la chaîne textile. Donc, chacun fait un petit peu son business. Et puis, quand on vient avec des nouvelles technologies, chacun nous dit, c'est pas notre problème, c'est pas à nous à investir.
Tu disais, Philippe, qu'il n'y a pas de parallèle avec l'alimentation. Mais à une époque, c'était un peu le fouillis, pareillement, dans l'alimentation. Il y a eu quand même des règles qui ont été mises en place. Maintenant, on arrive à tracer un peu les produits.
Ouais, et puis il y a des règles qui ont été mises en place parce qu'il y a eu une pression du consommateur. Le consommateur a voulu savoir ce qu'il mangeait, a voulu
Donc, une fois de plus.
C'est au consommateur de réagir et peut-être que c'est le moment pour le consommateur et aux associations de consommateurs. Pensons à notre ami hein, qui est le secrétaire général de la Fédération.
Mathieu Fleury, si tu nous écoutes.
Voilà, c'est
occupe-toi des jeans, c'est mais peut-être... lui ne porte que des tailleurs.
C'est peut-être le moment de se dire, ben, est-ce que je porte un jean qui est écolo, entre guillemets, parce que l'Ondigo ne vient pas de produits chimiques, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, les marques, elles, diront, ah oui, on veut avoir un petit logo. Alors peut-être qu'il faudra créer le petit logo prochainement pour inciter les marques à utiliser ce logo pour dynamiser la demande.
Mais toi, David, comment est-ce que tu vois l'avenir ? Tu penses que cette invention-là, ce brevet-là, va pouvoir devenir une application incontournable dans le jeans du futur ?
Nous, on en est toujours persuadés, donc on cherche un partenariat des gens qui sont capables d'investir cet argent au départ, donc qui ont un intérêt après pour la suite de la commercialisation, parce qu'on sait que le potentiel, il est énorme. Mais nous, en tant que petite start-up qui avons des actionnaires qui sont ce qu'on appelle les FFF, c'est la famille, les amis et les fous, on peut pas se permettre de faire...
Les familles et les fous.
Et les fous, oui.
Ah oui, famille, la famille, les... T'as suivi, Philippe ?
La famille, les fous et celui du milieu, je sais pas.
Les amis, donc.
Friends, ah, ouais. C'est ça. Voilà. Friends, family and fools.
Exactement.
D'accord.
Les actionnaires habituels, c'est des financiers, mais là, au lieu d'avoir des financiers purs, c'est vraiment des gens qui s'intéressent à voir une entreprise comme la nôtre grandir, évoluer.
Mais ils attendent quoi, concrètement, si l'application ne se révèle pas être ultra productive, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait ? Ce sont des doux rêveurs, des utopistes ?
Non, ils attendent qu'on arrive à développer puis amener des produits sur le marché. Puis si c'est pas le dénime, ce sera pour le traitement des eaux ou d'autres applications. Mais le but, c'est de voir une entreprise qui grandit, qui reste localement aussi à planter chez nous. Et puis où les actionnaires du départ ont la satisfaction d'avoir vu leur investissement concrètement ce qu'il est devenu quoi.
Donc on ne doit pas seulement être créatif au niveau de l'électrochimie, on doit aussi être un manager, un chef d'entreprise, lever des fonds, faire de la communication, c'est ultra complet maintenant, tu dois tout faire.
Oui, exactement, il faut vraiment sortir du laboratoire et puis aller à la rencontre des gens, convaincre. Mais convaincre, c'est les investisseurs comme là mes amis, la famille, les fous. Et puis convaincre aussi les partenaires, convaincre les futurs clients. Donc il faut prendre son bâton de pèlerin. Puis c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps finalement à plus faire de la technique, mais à faire
la relation.
La relation, exactement. Ouais. Ouais.
On verra si Bille en tête permet à cette entreprise de se développer. Qui sait, hein, Philippe, il y a beaucoup de fous qui nous écoutent. Il y a ta famille et mes amis. Une dernière question.
David, quand on a créé ce type de produit, hein, de découvertes, de brevets, tout ça, c'est bon. Est-ce qu'on prend son bateau de pèlerin ou est-ce qu'on continue quand même à rechercher d'autres nouveaux produits pour élargir sa gamme à proposer?
Alors c'est exactement ce qu'on fait. Puis c'est, dès le début, on avait cette idée, on a dit l'Adigo, c'est intéressant. On a réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à réaliser après des années et des années de recherche. Donc il y aura d'autres applications pour cette technologie. Et puis on va dans le traitement des eaux, dans le stockage d'électricité et d'autres applications de ce type.
Bon, on reparlera certainement du traitement des eaux parce que c'est un sujet qui me passionne suite à Madagascar, au Cambodge et à tout ça. Mais ça, c'est demain dans Bille en tête, 9h30, mon ami.
Au revoir, à demain, David.
À demain.
Salut Laurent.
Oui, salut Gérard.
Bonjour madame, Bille en tête sur la première. Préférez-vous monter ou descendre?
Monter.
Oui, pourquoi madame?
Monter, ça veut dire quoi? De
monter, grimper.
Oui.
Monter ou descendre?
Non, plutôt grimper. Ouais. Comme ça, je ne vois pas beaucoup de souffrances sous le bas.